Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà au deuxième épisode de la saison 7. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Maître Benjamin Bolduc, avocat en droit municipal et administratif chez Tremblay-Bois Avocats, et il est également chargé de cours à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, on va décortiquer le droit municipal et le droit administratif sans toutefois en faire un cours. Bref, du moins, on va essayer. Puis, c'est ça, on va aborder le parcours de Maître Bolduc et, dans le fond, ce que tu peux faire à partir de ce type de droit-là. Donc, je vous laisserai vous présenter.
Certainement. Donc, d'abord, on va régler la question. On peut se tutoyer, ça va être beaucoup plus convivial.
Parfait, pas de problème.
Donc, évidemment, je m'appelle Benjamin Bolduc. Je suis avocat depuis 2019. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval en 2016. J'ai ensuite fait mon barreau, donc en 2019. J'ai fait mon stage par la suite dans un cabinet national et j'ai rejoint Tremblay-Bois, donc en 2021. Donc, tout juste, presque pendant la pandémie, au début de la pandémie. Puis j'enseigne aussi effectivement le droit administratif 1 pour les initiés au baccalauréat en droit depuis, je crois, l'été 2024. J'ai aussi terminé une maîtrise en droits et libertés qui portait sur la liberté de conscience et de religion en 2000. En fait, je l'ai commencé il y a 4 ans, mais je viens tout juste de déposer mon mémoire. Donc, c'est mes 3 grands champs d'activité, disons, dans le monde du droit public.
Puis vous avez, dans le fond, de ce que je comprends, vous avez, c'est ça, comme mélangé... Pendant que vous faisiez votre maîtrise, vous avez travaillé chez Tremblay-Bois?
Exact.
Tu as travaillé chez Tremblay-Bois?
Oui, il n'y a pas de problème. Okay. J'ai commencé en fait à travailler chez Tremblay-Bois en 2021 dans le secteur. On a 4 grands secteurs en fait, le droit des assurances, droit corporatif, municipal et administratif et responsabilité médicale et préjudice corporel. Donc j'ai intégré l'équipe en assurance. Pendant la pandémie, je ne suis pas le seul. Il y a eu certaines remises en question, certaines crises existentielles qui m'ont amené à changer de secteur pour me retrouver dans le secteur de droit administratif et municipal et aussi à commencer une maîtrise. Je voulais continuer à travailler sur des sujets liés aux chartes. Des fois, c'est plus difficile d'en faire dans la pratique privée. Donc, j'ai combiné en fait là, les études supérieures et la pratique, ce qui n'est pas toujours évident nécessairement, mais ça a été un plus pour moi.
Parfait, ça a quand même été un bon équilibre. Finalement, c'était pas trop non plus...
C'est sûr que c'est un équilibre qui est dur à atteindre, mais qui peut être atteint. Quand on a un sujet qui nous passionne et qu'on a un intérêt au-delà de faire une maîtrise pour en faire une, je pense que ça se fait. Évidemment, le bureau a été très accommodant aussi dans ce sens-là. Mais effectivement, moi, c'est un équilibre que j'ai beaucoup aimé, là, de pouvoir faire de la recherche, des études en droit sur des sujets qui me semblent importants et de continuer à travailler aussi sur des sujets tout aussi importants. Mais c'est des expertises, puis c'est des domaines un peu complémentaires. Donc, moi, ça rejoignait mes besoins, là, disons ça comme ça.
Fait que ça te changeait d'air aussi, veux pas.
Exact. Des fois, c'est difficile de mettre 100% de son énergie dans les deux. Mais je pense que quand on est motivé, ça peut
c'est
se faire. Mais ça, c'est une grosse commande même.
Donc,
faut être disposé à le faire. Exact.
Puis, tu m'as dit dans le fond que c'est ça, tu as commencé chez Tremblay-Bois, puis tu as commencé en droit des assurances.
Exact.
Puis, qu'est-ce qui t'a fait te changer vers le droit municipal et administratif?
Quand je suis arrivé, en fait, j'ai surtout, après mon stage, j'ai voulu faire un peu plus de litige. Donc, je me dirigeais un peu tout naturellement, selon ce que je comprenais des sphères du droit en question, vers les assurances, qui, pour moi, étaient plus axées litige.
Oui.
Mais on représente aussi, dans notre secteur assurance, par exemple, l'assureur des municipalités. Donc, j'ai commencé à m'initier un peu plus au droit municipal. Puis j'ai aussi toujours été intéressé par le droit public, donc charte, consti, admin, puis j'en retrouve un peu moins en droit des assurances. Donc le cabinet, encore une fois, a été assez ouvert là-dessus. J'ai manifesté un intérêt pour essayer le droit municipal un peu plus sérieusement, puis j'ai trouvé un peu plus mon compte qu'en assurance.
Qu'en assurance, ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, chez Tremblay-Bois, c'est possible de commencer dans un domaine puis de changer facilement finalement d'un autre.
Exact. Je ne dirais pas que c'est l'idéal, là, mais je pense qu'il y a une ouverture à l'égard des étudiants qui, en sortant du bac, naturellement...
Parce que tu ne sais pas nécessairement ce que tu veux
exactement,
faire.
Exactement. Il y a des cours, moi, que j'ai adoré le cours de droit pénal général, mais je pense pas que je pourrais pratiquer en droit pénal à 100%. Donc, je pense qu'il y a une ouverture. On comprend très bien la réalité des étudiants.
Des nouveaux étudiants,
exact. Mais
oui.
Donc, si on veut essayer, c'est pas l'idéal. C'est pas le cheminement traditionnel, mais je pense qu'il y a une ouverture. Il y a un autre avocat aussi qui a fait le même déplacement de secteur plus récemment. Mais je pense qu'on comprend c'est bien la réalité d'un étudiant au bac qui peut aimer des sujets puis aimer un peu moins la pratique. Il faut le faire pour le savoir.
C'est bien de C'est ça, parce que veux pas, tu restes à l'interne aussi. Là, exact. Tu changes pas de bureau, exact. C'est juste de pratique.
Donc, je pense que
pratique.
Pour le bureau aussi, c'est un plus.
Ben oui, vraiment.
D'être capable d'avoir une flexibilité. Mais autrement, les secteurs sont assez bien répartis avec des spécialisations certainement complémentaires, mais aussi un petit peu exclusives. Il y a des éléments concomitants entre les assurances et le droit municipal, mais a priori, on pense que non quand même.
J'aurais pas pensé moi-même, honnêtement.
Exact. Donc, on fait plus de droit civil en assurance, un peu plus de droit public en droit municipal. Donc, moi, ça a été somme toute naturel, là, puis ça a été bien accueilli.
Ça a été, c'est ça, un bon changement, mais qui suivait un peu. Là.
Oui, il y avait une cohérence quand même. Là. Je faisais pas, par exemple, du droit des affaires.
Non, c'est ça.
Du droit municipal. Ça, c'est un mouvement un peu plus difficile,
ouais,
je pense.
C'est ça, c'est une chance à prendre.
Exact.
Puis justement, en fait, est-ce que, parce qu'on parle aussi du bureau, là, veux pas, tu sais, c'est ça, tu travailles chez Tremblay-Bois.
Oui.
Est-ce que, mettons, tu pourrais nous parler un petit peu du bureau, comment ça fonctionne, tu sais, par exemple, c'est quoi, justement, les branches de droit que tu peux pratiquer? Puis, peut-être faire aussi un petit parallèle par rapport à la course au stage. Je sais que ça prend d'intéresser quelques-uns.
Oui, certainement. On a célébré l'année dernière nos 70 ans d'existence au cabinet. Donc, on est un cabinet uniquement basé à Québec. On a des petits bureaux satellitaires là, dans la région de Charlevoix, mais on est exclusivement situé à Québec, à Sainte-Foy. Et on est une cinquantaine d'avocats dans quatre principaux secteurs, donc municipal et administratif, qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui.
Oui.
Droit des assurances, donc on représente principalement des assureurs. Aussi droit corpo, donc du droit des affaires, des transactions. Des trucs du genre que je ne connais pas parce que je n'en fais
pas.
Oui,
il y a pas de problème. Donc, ça
se limite à ça. Puis aussi, un autre secteur un peu plus connu au bureau, c'est le secteur de responsabilité médicale et préjudice corporel. Donc, on agit pour le compte de plusieurs victimes, soit d'erreurs médicales ou de préjudice corporel. Pour le recrutement, on ne fait pas partie de la course au stage.
C'est ce que j'ai pu comprendre.
Exact, pour la simple et bonne raison qu'on recrute tant en deuxième année qu'en troisième année. Donc, on fait un processus un petit peu similaire, mais parallèle à la course au stage. On reçoit des candidatures à une période déterminée, généralement en janvier. Après ça, on a un processus d'entrevue, entrevue numéro 1, entrevue numéro 2. Ça se fait généralement en février. Puis par la suite, ce qui est intéressant de mentionner, je pense pas que ça se fasse ailleurs nécessairement, c'est qu'après le stage de 6 mois du barreau, on offre aussi un 6 mois additionnel contractuel à la fin du stage, ce qui permet un peu de continuer à butiner dans les secteurs où on a un intérêt pour valider si, évidemment, ça va être un bon fit en bon français, puis si on aime ça pour vrai. Donc, je trouve que 6 mois, ça passe très rapidement juste pour se familiariser avec la pratique en stage. Donc, le 6 mois additionnel...
Ça peut être bien pour quelqu'un qui cherche encore.
Exact. Puis, je pense pas que les gens... L'exception, c'est des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire en rentrant dans le stage, mais je pense que c'est bénéfique de pouvoir continuer à osciller entre plusieurs secteurs, essayer, voir avec qui on s'entend mieux aussi.
Fait que quand tu rentres, tu promènes d'équipe en équipe.
Oui, c'est pas un stage formellement rotatif, mais donc les stagiaires sont un peu attribués à tous les secteurs.
Parfait.
Donc, dépendamment des intérêts aussi et des besoins, on peut en faire un peu plus, par exemple, de droit médical ou de droit municipal, mais normalement, on est un peu attitré à tout le monde. Donc, c'est pas formellement rotatif. Là. Je sais qu'il y a des cabinets qui font ça un mois ou deux mois dans tel secteur.
C'est
nous, c'est vraiment diversifié, ouvert. Puis aussi, le fait qu'on soit un cabinet relativement petit, là, une cinquantaine d'avocats, ça donne aussi des expériences très... pratico-pratique. Là.
Oui.
Dans le stage, c'est pas rare de voir des stagiaires qui peuvent faire des interrogatoires au préalable, évidemment encadrés, accompagnés.
Oui, c'est ça, mais t'as quand même une bonne... Tu sais, c'est très formateur dès le début, là.
Exact.
Je peux dire ça comme ça.
C'est très, malheureusement, j'ai pas l'expression en français, mais hands-on. Donc, on fait partie des dossiers, on est impliqué. S'il y a des dossiers qui débutent, on va être impliqué le 6 mois. Donc, c'est pas des interventions, en tout cas, c'est pas que des interventions ponctuelles, des petites recherches, des petits mémos. Il y a moyen d'être impliqué dans les dossiers.
Tu as de l'action dès le début, là.
Exact. Puis, on est capable de s'ajuster avec tous les types de personnalités aussi. Il y a des gens plus insécures, c'est normal. Il y en a qui sont plus confiants.
Mais ils vont être bien encadrés, ces personnes-là.
Exactement. Donc, on donne l'encadrement un peu qu'on projette ou qu'on voudrait avoir. Donc, moi, je trouve que c'est une... Je l'ai pas fait ici, mon stage, mais quand j'ai vu les stagiaires, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau milieu de stage.
OK. Bon, mais c'est intéressant de savoir, pour ceux qui ne savaient pas nécessairement comment ça fonctionnait pour le recrutement chez Tremblay-Bois. Je pense qu'on peut déjà, en fait, embarquer dans le vif du sujet. Enfin, c'est ça. Moi, en fait, présentement, je suis en train de faire mon cours d'administration 1. Fait que je pense que je vais en apprendre probablement autant que notre audience aujourd'hui. Mais si on pouvait, en fait, plus décortiquer brièvement le droit municipal et le droit administratif en tant que tel, Je sais pas si vous voulez comme nous expliquer un petit peu.
Oui, mais c'est pas évident, c'est pas une mince tâche, mais le droit municipal administratif d'entrée de jeu, je pense qu'il faut le dire, moi ça au bac, j'en entendais pas parler et conséquemment ça m'intéressait pas spécialement.
Mais est-ce que le cours d'administration 1 et 2 t'intéressait?
Oui.
OK, parfait.
J'ai toujours été intéressé par mes cours de droit public.
Oui, c'est ça, puis
Exact. Consti, Chartes, ce sont les cours qui m'ont le plus passionné, je dirais. Donc, c'est sûr que c'était un peu plus naturel pour moi, malgré les débuts de pratique qui n'étaient pas dirigés vers ça. Essentiellement, notre secteur s'appelle donc municipal et administratif. Municipal et administratif, donc on représente à 90 % des municipalités, donc les municipalités locales, donc les villes, aussi des MRC, donc des municipalités régionales de comté, des organismes municipaux, puis aussi des sociétés d'État qu'on appelle, que normalement tu aurais dû voir en admin 1, les sociétés d'État. Donc ce sont le principal de notre clientèle, donc on représente des organismes publics au final. Et donc, il y a à peu près 1100 municipalités, donc on ne les représente pas toutes, mais c'est à 90 % notre clientèle. Donc, ce qui fait en sorte qu'on conseille des municipalités sur plusieurs choses.
Tu as dit 90 %, fait que mettons le 10 %.
Il y a quelques dossiers où on représente, par exemple, des particuliers contre des municipalités. Donc, on saute un peu la clôture traditionnelle, mais il y a des cabinets à Québec qui font plus des particuliers contre des municipalités. Donc, nous, on fait un peu l'inverse. Mais on a aussi certains dossiers, par exemple, qu'on peut prendre. On en prend peut-être un peu de moins en moins parce qu'on a en masse de jobs avec les municipalités.
Mais oui, c'est sûr.
Mais il y a un petit 10 % qui demeure là, pour certains dossiers de particuliers. On peut parler d'entrepreneurs en construction, de promoteurs immobiliers, par exemple, qui ont des problèmes avec des municipalités qui ne seraient pas nos clientes, évidemment.
Mais
sinon, on serait en conflit d'intérêts.
Oui, c'est ça.
mais donc, j'ai essayé, en y pensant, de catégoriser en trois grandes catégories les types de droits qu'on fait.
Oui.
Donc, on fait, tu l'avais bien dit, on fait du droit administratif, disons, pur. Donc, on fait de l'admin 1, admin 2 que vous voyez au bac.
Que tu vois vraiment, c'est ça dans tes cours.
Exact. Okay. Donc, l'organisation du pouvoir exécutif, les municipalités font partie du pouvoir exécutif. Donc, les règles qui s'appliquent à eux s'appliquent donc de la même manière ou peut-être pas exactement de la même manière à tous les organismes publics. Donc, on fait de l'admin 1 et 2 pur. Donc, ça, c'est le premier grand volet. Donc, ce qu'on voit effectivement en admin 1 puis en admin 2, on l'applique à toutes les semaines en ce qui me concerne.
Bon, ben, ça, c'est quand même intéressant.
Exact.
Ça, donc, ça sert pas à rien.
Non, mais on pense que ça sert à rien quand on est assis dans la classe en admin 1.
Seulement la pratique, quand même concret.
Exactement. L'ouvrage d'action gouvernementale, moi, je l'ouvre au moins une fois par semaine. Sur la question, par exemple, de la sous-délégation. Vous allez voir si c'est pas déjà fait que la sous-délégation d'un pouvoir discrétionnaire est interdite. Bon, je sais que c'est passionnant dit comme ça, mais ça se pose souvent dans nos municipalités, à savoir comment est-ce qu'on peut déléguer un certain pouvoir. Donc, ce sont, par exemple, des questions qui reviennent assez fréquemment. On fait aussi de l'admin 2, donc le contrôle judiciaire. Quand on va devant la Cour supérieure, qu'un règlement municipal serait, par exemple, contesté, c'est des règles d'admin 2 que tu vas voir éventuellement si tu fais admin 2. Mais il y a aussi les règles un peu plus particulières. Donc, ça, c'était la première catégorie, l'admin que j'appelle pur. Il y a aussi des règles particulières qui sont applicables aux municipalités. Donc, il y a des lois spécifiques qui viennent encadrer les municipalités.
Tu as un exemple, mettons, qui vient en tête?
Le code municipal, la loi sur les cités et villes, ce sont les deux lois, disons, cadres qui encadrent l'action des municipalités au Québec. Mais il y a aussi des lois comme la loi sur les compétences municipales. Puis, il y en a une aussi très importante qui est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, encore une fois, ça peut paraître très abstrait, mais ce sont les règles qui encadrent les différents pouvoirs, les plus importants pouvoirs des municipalités. Donc, on a à travailler beaucoup avec ces lois-là. Puis, il y a une troisième catégorie, et celle-là, on a tendance à l'oublier, c'est le droit commun. Le droit commun, la common law, mais aussi le code civil qui s'applique aux municipalités dans la mesure évidemment prévue par le code civil, mais les obligations, le livre 5 par exemple, respo, obligations, contrats, tout ça s'applique aussi aux municipalités. Oui. Donc, on en fait beaucoup, par exemple des dossiers de construction, des litiges contractuels.
Okay.
Donc, ce n'est pas que du droit public. On fait aussi du droit privé, du droit commun applicable aux municipalités. Donc, c'est un pan des fois qu'on tend à oublier. Mais si on a par exemple un background de droit civil, ben, c'est pas perdu. Par exemple, quand je faisais du droit des assurances, toutes les règles contractuelles qu'on applique souvent, les règles de vis caché, par exemple, elles s'appliquent aussi aux municipalités.
Mais ça, tu me dis si je me trompe, mais dans le fond, de ce que je peux comprendre, le 10 % que tu parlais tantôt des particuliers, c'est le droit commun que tu vas comme plus appliquer?
Bien, souvent, mais pas que. Je pourrais pas faire un lien entre la clientèle et les municipalités et le fait d'appliquer des règles de droit commun. Par exemple, une municipalité qui passe un contrat avec un entrepreneur. Quelles sont les modalités de résiliation du contrat?
Oui, okay,
donc, la durée déterminée, résiliation par le client, tout ça, ce sont des règles, par exemple, okay, qu'on applique, les clauses pénales aussi. Souvent, on est consulté des fois en amont pour rédiger un contrat pour une municipalité.
Ben oui.
On veut savoir est-ce qu'on peut mettre une clause pénale. Bon,
fait que tu as quand même un peu de respo civil dans le fond.
Il y a de la respo civile. Il faut savoir que la respo civile, elle est modulée par les immunités que vous avez vues en Obling 2, par exemple, le Laurentine Motel. Mais c'est ça qui est le fun, moi, je trouve. On a des règles de droit commun modulées par la common law, donc le droit particulier ici aux municipalités qui vise à les protéger, les immunités de l'État, par exemple.
Oui. Puis,
mais donc, oui, on a de la respo civile.
Laurentide, est-ce que tu pourrais comme en parler pour ceux qui l'ont
Oui, Laurentide Motel, ben là, en très peu de mots,
oui,
c'est une immunité de responsabilité civile qui s'applique aux organismes publics, généralement aux mandataires de l'État, mais donc aux municipalités. Puis Laurentide Motel, c'est intéressant, c'est justement une décision municipale. Donc, c'est Laurentide Motel contre ville de, je ne me rappelle plus où.
C'est un détail.
Exact, mais c'est intéressant de le voir. Quand on parle de responsabilité civile, c'est une décision de la Cour suprême assez importante qui met encore une fois en jeu une municipalité. Donc, il y a des avocats qui représentaient une municipalité qui se sont rendus jusqu'à la Cour suprême sur des sujets comme ça qui sont encore enseignés. Mais donc, l'immunité vise à protéger les administrations publiques de certaines règles de responsabilité civile. Donc, il faudra démontrer une mauvaise foi ou un abus, par exemple, ou une faute intentionnelle de la part de la municipalité quand elle agit dans une sphère générale, une sphère publique. Donc, quand elle fait des actes opérationnels, elle est assujettie, comme toi et moi, à la responsabilité civile, mais quand elle exerce des fonctions particulières à la municipalité, fonctions étatiques, elle bénéficie d'une immunité.
Oui, c'est
donc, ça, il faut le savoir, il faut s'en rappeler, mais autrement, ce sont les règles classiques de la responsabilité civile, faute, préjudice, lien de causalité.
Mais c'est quand même intéressant, en fait, de voir que... Parce que, veux, veux pas, moi, j'avais pas tant perçu que tu avais un petit peu de droit municipal aussi là-dedans.
C'est
comme, oui, je le sais, mais je m'en souvenais pas nécessairement. Là, fait que, tu veux pas, dans toutes tes sortes de droits, un petit peu comme tes énumérés, tu as du droit municipal.
Exact.
Et administratif aussi, un
exactement,
petit peu.
Puis il y a d'autres exemples qui viennent à l'esprit pour des décisions phares qu'on voit au bac. Par exemple, je pense que l'arrêt Tarquini de la Cour d'appel, il me semble, en responsabilité civile sur le préjudice corporel. Ça encore, il me semble que c'était la ville de Montréal. Mais donc, encore une fois, donc, c'est une municipalité.
C'est
autre exemple, toujours en droit public, l'arrêt Mouvement laïque québécois que vous avez vu sur la neutralité religieuse. Bon, évidemment, c'était le maire de Saguenay. Donc, encore une fois, c'est une ville, une municipalité. Puis il y en a d'autres que vous allez voir en admin 2 là, sur l'interdiction de la discrimination, les arrêts Sharma, par exemple, ou Produit Shell. Ce sont des décisions qui dégagent des principes forts en matière de droit administratif, mais qui
sont encore présents ce jour.
Oui. Et que j'enseigne, par exemple, aux étudiants en admin 1, mais donc qui viennent du monde municipal. Donc, il ne faut pas juste penser que c'est des vidanges, des ordures, puis de la gestion des matières résiduelles.
Ouais.
Puis c'était un préjugé que je pense beaucoup de gens ont. Moi, je l'ai eu aussi quand j'étais au bac. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir l'occasion d'en parler parce que c'est pas sexy. A priori, le droit municipal, je pense pas que ça attire tant que ça, mais je pense que c'est aussi parce qu'on connaît mal qu'est-ce qui est fait par les avocats en droit municipal.
Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que, veux, veux pas, même moi, pour avoir admin 1 présentement, c'est ça. On dirait que j'ai de la misère à le voir en pratique.
Mm-hmm.
Tu sais, mettons, la matière peut t'intéresser, mais encore là, on dirait que c'est quand même abstrait.
Ça l'est, puis le bac est fait aussi pour être un peu plus abstrait. Moi, j'essaie de donner le plus d'exemples possibles quand j'enseigne qui sont tirés de la pratique ou tirés du monde.
Ça peut être bien, c'est ça, dans le fond, que tu sois... Ben, tu sais, c'est ça, quand t'enseignes, en fait, toi, tu peux vraiment donner des exemples concrets, là.
Oui.
T'sais, en étant chargé de cours, puis avocat aussi, je pense que c'est ça, t'en vois vraiment, là.
Exact, puis c'est un bon point aussi. J'ai trouvé rapidement que le droit municipal, c'était l'une... peut-être des seuls, mais une très bonne manière de pratiquer en pratique privée, en droit public, en droit administratif. Donc, j'ai été attiré par le droit administratif. Une fois qu'on veut en faire en pratique privée, il n'y a pas 1000 options non plus. Donc, j'ai compris rapidement, surtout quand je suis arrivé chez Tremblay-Bois, même si je ne faisais pas du droit municipal, je me suis rendu compte que c'était foisonnant au niveau du droit administratif.
Ouais.
Elles sont les municipalités en nombre très importantes. Elles interviennent dans plusieurs domaines et tous ces domaines-là sont assujettis au respect des règles de droit administratif. Donc, je trouve que c'est une belle manière d'en faire en pratique privée si ça nous intéresse. Autrement, ça se fait un petit peu plus dans des domaines très spécialisés ou dans les ministères ou au procureur général, par exemple.
OK. Fait que si t'as pas juste en privé que tu peux le faire en tant que tel?
Non, il y en a, mais c'est surtout, disons, plus dans la fonction publique, dans les ministères, au procureur général. Mais autrement, ce sera du droit administratif un peu plus précis. Donc, on l'enseigne aussi en droit administratif 1. La différence entre le droit spécialisé et général, le droit administratif, le droit spécialisé, on parle souvent des régimes d'indemnisation. Donc, quelqu'un qui ferait de la CNESST, de la LIVAC, donc des régimes d'indemnisation publique, il y a des gens qui vont se spécialiser dans ces régimes d'indemnisation-là, la SAC aussi, là, les régimes de préjudice corporel. Donc, quand on parle de droit administratif plus spécialisé, c'est souvent, il y a beaucoup d'avocats qui disent faire du droit administratif, mais se concentrent sur ces lois-là. Nous, on fait un peu plus du droit administratif général.
Exact. Okay. Puis, tu me fais penser, en fait, sur le fait que, justement, tu es chargée de cours présentement. Tu t'es pas dit que, dans le fond, tu n'étais pas tannée de l'université encore en terminant ta maîtrise.
Absolument pas.
Tu t'es décidée d'être chargée de cours.
mais d'un, je pense que je ne me tannerai pas beaucoup de l'université. Okay. Moi, pour moi, c'est un beau milieu d'apprentissage. Les années au bac.
Ça passe vite aussi. Exact. En fait, c'est ce qu'on me dit. Puis aussi, tu sais, juste à voir ma première année commencer à passer vite. Je suis comme, mon Dieu, dans deux ans, même pas un an, je finis. Deux ans, je finis le déjeuner.
Ah, puis il faut en profiter, je pense. Ouais. Moi, c'est des très belles années du bac. Et je trouve qu'enseigner aussi, j'ai tellement mis d'efforts pour essayer de comprendre toutes les règles que j'applique au quotidien, pour les vulgariser, qu'on doit les expliquer aussi aux clients de manière très simple, parce que nos clients sont pas souvent des juristes.
Non.
Donc, c'est des directeurs municipaux,
c'est vraiment
par exemple
un vocabulaire différent.
Exact. Donc, l'effort de simplification, de synthèse, de vulgarisation, je le faisais déjà au quotidien, puis je trouvais que c'était pas une mauvaise idée de donner au suivant.
C'est pas mal ça, dans le fond, que t'as donné le goût de...
Ben oui, honnêtement, oui, et je sais aussi que, bon, le droit administratif, c'est présenté comme une espèce d'épouvantail. J'ai entendu souvent des étudiants et étudiantes me dire « Ah, droit administratif, ça fait peur, c'est un peu terrifiant, puis j'ai jamais compris pourquoi.
Okay. »
Donc, j'essaie de comprendre.
Parce que t'étais un passionné, toi.
Ben oui, puis moi, ça
m'intéressait, je veux dire.
J'avais des réflexes un peu plus naturels en matière de droit public qu'en matière de droit privé, par exemple. Okay. Moi, si on me pose des questions sur les sûretés, c'est un peu plus difficile pour moi. Ou faire des calculs de patrimoine familial, c'est pas ma tasse de thé du tout. Mais donc, j'essaie de comprendre pourquoi les étudiants sont un peu terrifiés, puis d'essayer de limiter cette angoisse-là. Si vous avez réussi à passer charte et consti, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à passer le cours d'admis.
Il y a un peu d'espoir, là.
Exact. Puis j'avais aussi un souci de rendre un peu, démocratiser un peu le droit administratif, parce qu'effectivement, quand on reçoit l'information de tout ce qui est le droit administratif, on se dit, bon, je vais mettre ça dans ma poche, puis je l'utiliserai plus jamais. Mais je pense que c'est un mythe, et pour moi, c'est assez transversal, le droit administratif, puis c'est aussi un lien avec la surveillance des pouvoirs publics.
Oui,
c'est quelque chose, moi, qui m'a intéressé. Je pense que ça fait partie de notre mission comme juriste. Même chose pour les chartes. Donc, c'est des règles qui visent à contrôler l'exercice du pouvoir exécutif. Donc, c'est une fibre, moi, que j'essaye de transmettre, pas toujours avec succès, mais de transmettre aux étudiants. Exact.
Oui.
Donc, c'est ça. J'ai pas du tout été tanné de l'université. Okay. Non, la maîtrise, moi, ça m'a fait quand même... ça m'a fait découvrir un autre volet, qui me manquait des fois au quotidien dans ma pratique.
Mais tu n'avais pas pensé nécessairement à enseigner au début, là. C'était comme...
Non, c'est arrivé un peu comme ça. J'avais un intérêt, mais je n'aurais pas poussé plus qu'il faut. Mais il y a des opportunités qui se sont présentées, puis je les ai saisies pendant que j'étudiais à la maîtrise et que j'enseignais. Donc, c'est un peu, pour moi, une manière de combiner les deux. Ça fait l'intersection entre la recherche et la pratique, pour moi, l'enseignement. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir essayer de transmettre du moins ce que je considère être l'importance du droit administratif, puis de démystifier un peu ce que c'est.
Puis c'est quand même aussi, tu veux pas, récent, si je peux dire ça, tes années au bac. Fait que, tu sais, je pense que tu sais que, veux pas, tu sais, c'est ça. Des fois, je veux dire, utiliser des termes, ou les enseignants utilisent des termes, les professeurs, peu importe, changer de cours. Puis c'est ça, des fois, c'est pas simple pour nous. Fait que, c'est ça, tu voulais vraiment le décortiquer aussi, veux pas.
Moi, je veux que les étudiants comprennent. Je suis pas là pour piéger personne. Je veux clarifier pourquoi c'est important, d'où viennent les règles et quand est-ce qu'on les applique et comment.
Oui.
Et je pense que ça, c'est un gros plus d'avoir des chargés de cours. Évidemment, il y a tout le débat entre les professeurs et les chargés de cours, à savoir est-ce qu'on veut une approche plus concrète ou moins concrète. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré les professeur quand j'étais au bac.
Oui, OK.
Mais je sais qu'il y a
comment
beaucoup,
ça?
Je sais pas. C'était plus poussé, disons, souvent. On prenait le temps d'expliquer l'origine de la règle, pourquoi elle est là. Et c'est ça qui m'intéressait quand j'étais au bac. J'avais pas la perspective de pratiquer tant que ça.
C'était de savoir, mettons, ça venait de
exact,
où,
pourquoi c'est
pourquoi,
là.
Ouais.
Exact. C'était vraiment okay. un souci un peu de curiosité intellectuelle. Donc, après ça, d'avoir toujours des exemples, ça aide. Mais j'avais toujours, je pense, une familiarité vers les enseignants qui étaient des professeurs par rapport aux enseignants chargés de cours. Donc là, je me retrouve à être un chargé de cours praticien. Donc, j'essaie d'avoir un peu de marcher sur ce fil-là entre la pratique et la théorie parce que je trouve que les deux sont importants.
Oui, puis je veux pas, ça rejoint ta pratique.
Exact.
Les deux se rejoignent en fait, là, tout simplement.
Exact.
Donc, c'est ça, on a vraiment comme plus abordé le droit administratif et puis tout ce que ça rejoignait. Je me demandais, tu sais, c'est quand même en lien aussi avec le droit municipal. Mmh. Est-ce que tu voudrais comme un petit peu plus me parler des options, des branches, en fait,
ouais.
du droit municipal en
ouais,
tant
mais ce
tel.
Qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas vraiment de droit municipal.
Okay.
Il y en a de plus en plus des droits municipaux. C'est-à-dire qu'avec les trois grandes catégories de règles juridiques qui s'appliquent aux municipalités, je me suis pris des notes tellement qu'il y en avait, on parle d'accès à l'information, notamment
okay.
la loi sur l'accès aux documents des organismes publics.
Oui.
On peut avoir des demandes de journalistes, par exemple, qui veulent accès à certaines résolutions ou règlements ou décisions prises par des municipalités. Ça génère un gros volume de demandes qui sont applicables, mais on travaille donc ici avec la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Donc ça, c'est un gros volume aussi. On peut aller devant la commission d'accès, débattre de la question du caractère public
okay.
d'un document. C'est beaucoup de volume pour les municipalités. Aussi, les questions d'appel d'offres, soumission, donc les règles de passation des contrats. Les municipalités ne peuvent pas passer des contrats comme toi et moi
oui.
Quand il y a certaines dépenses ou certains types de contrats. Puis on le voit avec la commission Galland notamment sur
oui.
les questions des appels d'offres. Bon, c'est la même chose dans le monde municipal. Il y a des
okay.
règles de passation des contrats. Quand est-ce qu'on doit aller en appel d'offres? Donc, demander à tout le monde de nous donner des soumissions puis être pris pour prendre la plus basse, par exemple,
oui.
il y a des modulations, mais tout ça aussi, c'est un gros volume. On en parlait aussi, le droit civil. Donc, responsabilité civile, construction, je pense que ce seraient les deux plus grands domaines en matière de droit civil, c'est-à-dire la municipalité peut donner des contrats de construction, donc elle est
okay.
la donneuse d'ouvrage, donc les contrats de construction, les contrats nommés au code civil, responsabilité civile, on en a parlé
oui.
aussi. Contrôle judiciaire, donc ça, c'est un peu plus du droit admin, mais quand on se fait poursuivre sur la validité de notre règlement, ça arrive fréquemment. Donc, c'est des règles de contrôle judiciaire,
ben
la norme
oui.
de contrôle pour certains que ça, à qui ça dit quelque chose. Donc, le contrôle judiciaire, il y a aussi du droit disciplinaire, éthique, déontologie. Donc, les municipalités, évidemment, sont représentées par des élus.
Oui.
Des questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'un élu est en conflit d'intérêts? Dans des plus petites municipalités,
okay.
par exemple, on veut donner un contrat de déneigement. Bon, la seule entreprise possible, ce serait par exemple l'entreprise de la sœur d'un conseiller.
Ah, OK, je comprends, oui. Si c'est un conflit d'intérêts,
exact.
C'est ton ami.
C'est ton ami, c'est souvent des affaires de la famille. Dans des
puis il y en a quand même souvent de ça, je pense.
Il y en a beaucoup, puis il y a un gros volume à la commission municipale, qui est un okay. tribunal administratif, qui entend des dossiers justement d'éthique, de déontologie. Donc ça fait une partie intégrante aussi de notre pratique. Droit électoral, ça c'est intéressant parce qu'il y a des élections municipales à travers le Québec qui arrivent le 2 novembre prochain. Donc c'est principalement la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités.
Okay.
Donc il y a un paquet de règles spécifiques.
Est-ce que vous en avez plus présentement?
Naturellement.
Ouais, c'est
les municipalités sont un peu accaparées par ça.
C'est sûr.
Et il y a une période où ils arrêtent de siéger normalement.
Oui.
Donc, ils ne prennent plus de décisions durant la période électorale pour ne pas, en bon français, piler sur les pieds du prochain
oui.
conseil. Mais les questions de droit électoral pendant les périodes électorales, c'est vraiment, il y a beaucoup de volume. Le reste
okay.
de l'année, c'est plus tranquille.
Oui, c'est sûr.
Mais donc, ça fait
c'est
aussi, ça change le mal de place.
Oui.
Des fois, si on aime ça ou si on n'aime pas
non,
ça.
C'est ça.
Autre domaine en importance, c'est l'environnement. Donc, souvent, il y a des projets de développement immobilier. Les municipalités se doivent d'appliquer une portion de la loi sur la qualité de l'environnement.
Oui.
Quand il y a des questions de protection des milieux humides, on parle souvent là, des questions de protection des grenouilles aussi. Là, ça fait beaucoup réagir dans les médias. Des projets de développement immobilier qui ne peuvent pas se faire, par exemple, parce qu'il y a un milieu protégé.
Ah, oh, oh, ouais, OK.
Oui, il y a des types
de... C'est pas tant des affaires qu'on pense en tant que
non,
telles, mais...
Non, mais donc, milieu humide, donc que ça soit dans les rives
oui.
d'un lac, d'un cours d'eau. Donc, est-ce que finalement, le projet envisagé respecte les normes environnementales, bien, ça incombe à la
okay.
municipalité aussi quand elle autorise ou non un projet immobilier. Donc, l'environnement, c'est...
Vous en voyez quand même pas mal.
Ça, il y en a quand même pas mal.
Okay.
Il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que le domaine aussi de l'environnement, c'est
oui.
diversifié, c'est un peu complexifié, là, si on est transparent. Mais au final, dès qu'il y a des projets qui mettent en cause soit un milieu protégé, que ce soit pour des raisons X, Y, Z, rattachées à l'environnement, naturellement, les municipalités doivent jongler avec ces normes-là environnementales.
Oui, c'est sûr.
De la même manière que le gouvernement provincial et fédéral même. Donc, c'est juste à, peut-être à plus petite échelle ou à échelle plus locale. Sinon, les questions d'expropriation, on en parle aussi beaucoup avec le tramway à Québec. Donc, la municipalité, pour des projets d'intérêt municipal, peut vous forcer à céder une partie de votre terrain. Donc, c'est une règle un peu exorbitante. On appelle ça l'expropriation.
Est-ce que c'est ça, justement, avec le tramway présentement? Est-ce que c'est quand même un gros enjeu?
Un peu moins pour nous, parce que c'est la Ville de Québec. La Ville de Québec a ses avocats à l'interne. Mais quand il y a des projets d'importance dans d'autres municipalités, ça peut effectivement être le cas quand on a des projets domiciliaires ou des projets à vocation municipale. Effectivement, si la personne ne veut pas nous vendre une parcelle ou son terrain, on peut l'exproprier dans certaines circonstances.
Ça peut être un petit peu, je vais dire ça comme ça, touché comme situation.
Oui. C'est évidemment les personnes qui sont enchantées de se faire exproprier. Évidemment, je te rassure, il y a des compensations financières qui viennent avec ça. C'est sûr qu'on essaye, dans la mesure du possible, de s'entendre de gré à gré avec le propriétaire, mais ce n'est pas toujours possible.
Donc,
ça peut être des relations des fois un peu plus acrimonieuses, mais on essaye que ça ne le soit pas.
Mais
encore une fois, expropriation, c'est un gros volume. Fiscalité municipale, bon, ça semble particulièrement inintéressant, mais ça ne l'est pas. La taxe foncière, donc à chaque année, vous avez à payer des taxes foncières à la municipalité comme propriétaire foncier, mais il y a aussi de plus en plus de nouveaux pouvoirs qui sont donnés aux municipalités. Taxe générale. Donc, on peut taxer certains sujets au-delà de la maison. On peut imposer des redevances. Puis ça, il y a plusieurs projets. C'est des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités. Fait que ça peut être intéressant. Les redevances, c'est souvent pour inciter ou modifier un comportement. Redevances, on l'envoie, par exemple, pour l'utilisation de produits à usage unique en plastique.
Il
y a des municipalités maintenant qui ont des pouvoirs pour encadrer ça. Donc, si vous effectuez un geste X, bien, vous avez une redevance de tant de dollars à payer avec l'objectif de vous inciter à modifier votre comportement.
Je comprends.
Donc, ça, c'est des nouveaux pouvoirs, puis c'est super intéressant. À Québec aussi, la taxe sur l'immatriculation, qui sont des domaines nécessairement peut-être pas municipaux à première vue, mais on ajoute des pouvoirs aux municipalités pour leur permettre de répondre aux besoins aussi de plus en plus grandissants. Donc, les pouvoirs en matière de fiscalité municipale aussi sont très intéressants, je pense. C'est des bons outils pour les municipalités pour arrêter de se fier uniquement à la taxe foncière puis à taxer les gens sur la base de la richesse de leur propriété. Donc, c'est des outils aussi très intéressants.
Fait que dans le fond, pour quelqu'un qui veut faire de la fiscalité, c'est vraiment une manière aussi, tu peux jumeler ça avec le municipal.
Exact. Bien, on en fait au quotidien. Le municipal, c'est tout ce que je viens de dire. Il n'y a pas un seul municipal. Il y a, par exemple, du droit pénal. Quand on délivre des constats d'infraction pour la contravention de nos règlements, on agit comme poursuivant, donc code de procédure pénale. Donc, c'est vraiment transversal aussi. Réglementation d'urbanisme, là, si vous faites un usage qui n'est pas autorisé dans une zone, là, vous faites un dépanneur dans une zone résidentielle, ça ne marche pas. Comment on peut régulariser? Est-ce que ça mérite un constat d'infraction, on va à la cour municipale, puis c'est un procès pénal. Donc, il faut connaître ces règles de procédure pénale aussi.
Je comprends ce que tu veux dire par transversal. Exact. C'est vraiment comme
J'ai même pas terminé. On fait aussi du droit du travail. Il y a des congédiements du personnel municipal. Il y a des règles de la CNSST, le harcèlement aussi, les règles sur la prévention du harcèlement, jusqu'où la municipalité doit aller pour faire cesser le harcèlement. Il y a des dossiers aussi un peu plus médiatisés qui mettent en jeu des citoyens qui faisaient preuve d'un comportement harcelant à l'égard d'élus ou d'employés municipaux. Donc ça, bien malheureusement, c'est aussi sur la table quand on parle de droit municipal. Un volet très important, puis je vais terminer avec lui, c'est l'aménagement du territoire ou l'urbanisme ou le zonage. La municipalité a plusieurs pouvoirs d'encadrer la gestion de comment va se développer le territoire. Le principal outil, c'est le règlement de zonage. Le règlement de zonage, il prévoit dans les catégories de zones qu'est-ce qu'on peut faire comme usage, donc résidentiel, commercial, industriel. Le zonage, c'est notamment ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de site d'injection supervisé ou de barre de danseuse à côté d'une garderie.
Mais ça, c'est vraiment la municipalité qui décide ça.
Exact. Okay. Donc, municipalité MRC, donc la municipalité régionale de comté, qui est une instance municipale, disons, régionale. Donc, il y a plusieurs municipalités locales au sein d'une MRC, mais il y a plusieurs outils d'urbanisme. Le principal, c'est le règlement de zonage qui prévoit dans quelle mesure on peut ou non faire un usage résidentiel dans une zone X. Donc, le territoire est tout cartographié, puis il y a des zones où on peut faire des usages et d'autres où on ne peut pas.
Mais En quoi vous... Ben, en fait, comment vous intervenez à ce niveau-là?
Bon, d'abord sur l'interprétation du règlement.
Okay,
souvent, on a des citoyens, par exemple, qui veulent faire un usage X et la municipalité peut nous consulter pour savoir, ben, à la lumière de mon règlement de zonage, qui est particulier pour chaque municipalité, ça se ressemble des fois un peu, mais est-ce que l'usage qu'il fait est autorisé dans cette zone-là?
Okay.
Non, ça peut être des éléments comme ceux-là. On peut aussi avoir des consultations.
Ben, dans le fond, vous agissez quand même en conseiller à ce niveau-là?
Et ça, c'est intéressant. Puis on peut faire le pont directement là-dessus parce qu'on a trois principaux rôles en droit municipal que j'ai encore une fois catégorisé. Il y a du litige, il y a du conseil et il y a un volet un peu, peut-être en volume moins important, la formation.
OK.
Donc, un avocat en droit municipal fait un peu des trois, mais peut se spécialiser dans l'un ou l'autre, surtout le litige, le conseil.
Puis tu veux-tu me...
Oui, ben, effectivement, il n'y a pas de problème. Le litige, c'est donc tout ce qui est judiciarisé.
Oui.
Donc, des litiges qui pourraient impliquer la municipalité en demande ou en défense. Par exemple, si on se fait contester un règlement municipal qui aurait été adopté, il y a un règlement, je pense, de la Ville de Québec, encore une fois, qui visait à interdire les poêles au bois sur tout le territoire. Bon. Alors, s'il y a des citoyens qui ont contesté la validité de ce règlement-là, sur la base, je crois, je ne suis pas familier exactement avec le dossier, sur les règles de droit administratif.
Okay.
Donc, ça, ce serait un exemple de dossier en litige. Donc, on va être, pour la municipalité, on va agir devant la Cour supérieure pour défendre le règlement de zonage. On peut être aussi en demande. Donc, si, comme j'en parlais tout à l'heure, on délivre un constat d'infraction pour une infraction au règlement de zonage. Donc, quelqu'un qui fait, par exemple, un salon de coiffure dans son salon résidentiel et c'est pas autorisé, on peut prendre des mesures en demande. Donc, la municipalité peut saisir la Cour supérieure ou la Cour municipal pour donner une poursuite pénale ou un recours civil qui va viser à faire cesser cet usage-là dérogatoire.
Okay.
Devant les tribunaux administratifs aussi, la Commission d'accès à l'information, le tribunal administratif du Québec, la CPTAQ, qui est l'organisme qui chapeaute la loi sur la protection du territoire agricole.
Oui.
C'est un peu technique, mais on agit devant ces tribunaux-là et devant les tribunaux de droit commun. Donc, on fait évidemment des procédures judiciaires, on fait de la stratégie judiciaire, puis on mène à terme des procès. En fait, donc, c'est le litige classique, mais avec des municipalités, finalement, comme clientes. Donc, c'est ça la twist, mais on fait du litige dans tous ces domaines dont je viens de parler.
Okay.
Donc, ça, c'est le premier volet, disons, le litige. Il y a le volet conseil aussi, qui est très important, qui vise en pratique à conseiller les municipalités sur tous les sujets qu'on a abordés. C'est parfois pour répondre à des problématiques que les municipalités nous amènent, mais ça, c'est intéressant de le mentionner aussi, c'est aussi pour les accompagner dans des projets inspirants pour la communauté. Donc, on n'est pas constamment en train d'éteindre des feux. On a aussi des consultations pour réaliser des projets qui sont, à mon avis, inspirants, qui peuvent concerner, par exemple, le logement abordable ces temps-ci.
Oui.
Les questions d'itinérance aussi. Ce sont deux thèmes récurrents qui reviennent pour les municipalités.
Vous n'êtes pas toujours, mettons, en réaction justement à ce qui se passe. Vous aidez aussi à ce que, ben, que ça soit des idées,
Exact.
Ouais, vous emmenez aussi des points nouveaux que les municipalités n'auraient pas nécessairement vu.
Donc, avec des nouveaux pouvoirs, par exemple, que les municipalités se verraient octroyer, on a un projet, la municipalité nous vient avec ce projet-là, on dit « est-ce qu'on peut faire ça? » Bon, si c'est un projet faisable, ben on va conseiller juridiquement dans ce sens-là, mais c'est des beaux projets, des beaux succès qui contribuent généralement à la vitalité locale ou à des problématiques particulières. Donc, il y en a un qui me vient à l'esprit, je crois que c'est à la ville de Gatineau. Ils ont créé un village avec la collaboration du provincial, mais un village, il s'appelle Village Transition, je pense.
C'est un village de...
C'est un village pour les personnes en situation d'itinérance.
Ah, OK.
Donc, je crois que c'est des roulottes, comme des roulottes de chantier chauffées, donc dans un secteur de la municipalité. Et ça permet d'héberger des personnes, idéalement de manière temporaire, en situation d'itinérance. Ils leur font signer un code de vie avec des heures et certaines règles de vie. Mais donc, c'est un projet que la ville de Gatineau avait en tête.
C'est un beau projet.
Exact. Ils voulaient savoir comment le mettre en œuvre. Donc, c'est pas que de la problématique
tout
le temps.
C'est sûr.
Ils veulent trouver une manière de bien ficeler le projet pour que ça soit conforme aux lois applicables. Mais donc, c'est effectivement un aspect aussi qu'on tend à oublier. C'est pas juste de répondre au téléphone pour régler des problèmes.
Ben oui. Mais puis c'est le fun de voir en fait que vous pouvez avoir un impact positif aussi. Là.
Exact.
C'est quand même le projet de ce village-là, c'est un beau projet, là, je trouve.
Je trouve aussi.
Ça peut avoir un impact vraiment positif pour des gens.
Exact. Ouais. Puis les projets de redevance aussi, des fois, qui visent à changer des comportements pour des raisons environnementales, ça peut être des beaux projets. Donc, c'est des projets qui sont porteurs pour la question de la municipalité aussi. Il y a souvent des projets d'infrastructure, des promenades, par exemple, sur dans les municipalités plus touristiques ou des arénas, des centres multifonctionnels. Donc, c'est tous des projets, des fois, qu'on oublie ou qu'on tend à oublier. Puis quand on dit droit municipal, on se dit, ah, ben c'est la gestion des déchets puis des égouts. Ben, il y en a, évidemment, parce que c'est des compétences municipales, mais c'est pas que ça. Donc, moi, j'ai toujours été intéressé par le droit public, notamment pour ça, pour les questions d'intérêt public, d'intérêt général, puis de projets de société porteurs.
Oui.
Ici, c'est évidemment dans une dimension plus locale, mais c'est non moins intéressant, là, à mon sens, d'en parler. Puis un troisième domaine aussi, qui est la formation. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les élus et les employés municipaux sont pas nécessairement des juristes.
Ouais,
donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la formation. Les modifications législatives sont quand même nombreuses. Donc, on essaie de tenir tout le monde au courant des modifications législatives. Donc, on fait beaucoup de formation aussi.
OK. Mais est-ce que c'est eux qui vont vous approcher ou c'est vous qui allez les approcher?
Il y a des municipalités qui nous approchent des fois. Okay. Des fois, il y en a qui se mettent en commun dans une certaine région parce qu'ils ont une problématique particulière.
Okay.
Donc, ils voudraient un peu de formation là-dessus. Mais c'est souvent à travers des associations qui regroupent des municipalités.
Oui, okay.
Donc, il y a eu tout récemment un congrès de la Fédération québécoise des municipalités la semaine dernière. Il y a aussi l'Association des directeurs municipaux du Québec et d'autres organismes du genre qui donc chapeautent ou qui regroupent plusieurs municipalités. Et ils ont des congrès, par exemple, annuels ou des colloques qu'ils organisent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on rejoint beaucoup de municipalités pour donner des formations sur un sujet particulier.
Ça ne serait pas du one-on-one? Non,
mais on peut en faire, mais c'est souvent, on essaie de viser plus large pour monter une formation qui va servir à tout le monde. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous fait sortir de la ville de Québec.
OK, ça fait changer d'air.
Ça fait changer d'air, ça fait voyager un peu. Des fois, depuis la pandémie, on voyage un peu plus local, mais ça nous fait voyager dans toute la province, dans l'Est, dans l'Ouest. Même chose pour le litige. Donc, on se promène, dépendamment d'où sont les municipalités, ça nous amène à sortir un peu de la ville de Québec.
Ça peut être fun,
oui. Exact. Donc, on n'est pas toujours devant notre ordinateur à faire du télétravail. Là.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Exact. Ouais. Donc, ça, c'est un beau domaine pour se promener au Québec.
Ben oui. Fait que c'est toujours de manière temporaire, en fait, que vous êtes... dans ces municipalités-là.
Évidemment, le caractère temporaire peut varier. Si on fait un procès d'une semaine, deux semaines en région, ben, on va être là une semaine, deux semaines. Des fois, c'est une formation d'un jour. Mais effectivement, on n'est qu'à Québec, le bureau physique. Okay. Donc, c'est sûr que c'est principalement à Québec que ça se passe. Puis ce qui est intéressant, je trouve, du secteur, c'est qu'on peut ne pas faire de litige et on peut en faire. Donc, il y a des avocats ou des étudiants qui se disent « je ne sais pas si je veux vraiment en faire du litige.
Oui, »
Il y en a qui veulent en faire, donc on en fait pas mal, mais il y a moyen de ne pas en faire. Donc, c'est une flexibilité, moi, que je trouvais intéressante. On peut faire du 50-50, mais on essaye d'un peu plus de spécialiser. Est-ce que vous faites, par exemple, plus de litige? Est-ce que vous faites plus de conseils? On a des avocats qui vont jamais plaider, puis il y en a qui vont un peu plus plaider, qui font un peu moins de conseils. Donc, il y a une flexibilité au secteur que je trouve super le fun pour les étudiants.
C'est vraiment possible de séparer les trois ou de les mixer?
Oui, il y a moyen de les mixer,
parfait.
Mais c'est un enjeu de plus en plus évident pour le droit municipal, la complexification des normes, l'inflation des normes aussi. Donc, on essaye de se diriger vers une sur-spécialisation un petit peu.
Mais il y a quand même plus dans quelle
spécialisation? Je fais un peu plus, je reste 50-50. Je suis un peu, malgré mon âge, dans la vieille génération, avant peut-être la classification un peu plus claire ou nette entre litige et conseil. Mais moi, je dirais 50-50 ou 40-60.
Ceux qui rentrent en droit municipal, c'est vraiment... Ils vont aller plus se spécialiser soit dans le litige ou dans la...
Oui, mais il y a moyen de faire les deux.
OK.
Donc, si vraiment c'est possible, mais on essaye de un peu plus de placer une étiquette quand même pour être capable de répartir les tâches aussi le mieux possible. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Si on ne sait pas si on veut faire du litige, il y a moyen de faire de la pratique privée sans faire du litige.
OK.
Donc, ça, c'est un volet aussi que je trouve très intéressant.
OK. Puis ça me fait penser, en fait... Est-ce que vous avez souvent affaire avec comme les autres équipes, les différentes équipes au sein de Tremblay-Bois?
Oui, bien, ça arrive. C'est sûr qu'on est spécialisé dans ce qu'on fait, mais il y a des questions souvent, étant donné que c'est tellement transversal. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est les questions, par exemple, de faillite.
Oui.
Des fois, des municipalités ont des enjeux avec des entrepreneurs ou des personnes qui font faillite, et ça, on n'en fait peut-être pas au quotidien. Donc, on a des avocats dans le secteur un peu plus litige corpo on a des avocats qui sont un peu plus familiers avec ces domaines-là. Donc, eux aussi, ça leur fait plaisir un peu de sortir de leur, oui. leur carré de sable habituel. Puis, tout naturellement aussi avec le secteur assurance, étant donné qu'il y a de l'assurance ouais. municipale.
Comme
des fois,
on a
des questions.
Ça,
exact. Donc, ça peut être un peu plus fluide. Donc, ça arrive surtout la collaboration.
C'est ouais. ça, il y a une certaine collaboration entre ouais. les membres.
Oui, puis okay. surtout pour les dossiers de droit civil, donc construction, dossiers oui. d'hypothèque, on va se référer à nos collègues qui font un peu plus de litiges, moins, disons, municipales.
Ouais, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans.
Exact.
C'est toujours
exact.
Pertinent.
Moi, la loi sur l'impôt sur le revenu ou les lois en matière de faillite.
Oui.
Évidemment, je ne les ouvre pas tous les
ben
jours.
Oui,
donc
c'est normal.
C'est beaucoup plus intéressant aussi de lâcher un coup de fil à un partenaire qui va connaître la oui. réponse plus rapidement. Donc, je trouve que c'est le fun aussi de okay. sortir de son équipe dans ce sens-là.
Oui. Donc, non, c'est ça. C'est le fun de voir qu'il y a une collaboration entre les différents partenaires. Là. Je me demandais si vous pouviez me décrire une journée typique dans votre vie en tant que... avocat, chargé de cours.
Le volet chargé de cours, évidemment, si j'ai pas de cours cette journée-là, ça va se résumer à préparer mes cours, mais c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Mais
oui.
Au niveau du travail chez Tremblay-Bois, la difficulté d'identifier une journée typique, c'est qu'on fait tellement de choses variées différemment. Vu que je fais aussi du litige et du conseil, la journée peut varier dépendamment de si on est en train de préparer un procès ou non. Mais je dirais que dans une journée, je peux par exemple travailler sur un mémoire à la cour d'appel, sur une okay. question de validité réglementaire, par exemple. Donc, est-ce qu'un règlement municipal est effectivement permis en vertu des lois municipales? Est-ce qu'on avait les pouvoirs habilitants d'adopter ce genre de règlement-là? Donc, ça peut être un premier volet de la journée. Dans un deuxième temps, on pourrait préparer, par exemple, une opinion juridique. Les opinions juridiques, là, au niveau du conseil, ça peut être un appel téléphonique de 5 minutes, ça peut être une opinion de 17 pages. Donc, le conseil, okay. c'est assez large. Mais donc, si, par exemple, j'avais une question, ce qui est déjà arrivé, sur l'interprétation des pouvoirs de redevance. Donc, une municipalité voudrait imposer une redevance pour des fins X, Y ou Z, par exemple, pour l'environnement, pour, par exemple, éponger les conséquences du tourisme dans
oui.
sa municipalité. Donc, on pourrait avoir une opinion à faire écrite là-dessus. Puis on pourrait aussi avoir, par exemple, un appel téléphonique d'une municipalité qui a reçu une demande d'accès à l'information. Donc, okay. il y a un citoyen qui a demandé d'avoir accès à tel ou tel document municipal. La municipalité veut savoir, donc, notre opinion juridique sur le caractère public ou non de ce document-là en vertu de la loi sur l'accès.
Fait que vous rencontrez plus les clients par soit par appel, visioconférence ou aussi, je veux dire, en personne?
C'est depuis la pandémie, tout naturellement,
mais
il y a
oui.
moins de personnes, mais on se déplace quand même dans certaines municipalités quand
okay.
il y a des gros dossiers d'importance
Parfait.
Ou quand les employés municipaux veulent qu'on expose certains enjeux juridiques au conseil municipal. Donc ça peut être fait, mais de manière générale, depuis la pandémie, on est très visioconférence, téléphone.
Okay.
Donc ça facilite aussi la tâche, mais c'est sûr que ça place peut-être une distance, mais c'est un avantage indéniable dans la mesure où
on... Ben, la plupart des gens, en fait, font ça vraiment depuis
exact.
La pandémie.
Puis on représente des municipalités beaucoup dans l'Est, mais aussi dans un peu plus près de Montréal. Donc, c'est sûr
ah,
que okay. si...
Ah, ouais, ça peut être quand même beaucoup de déplacements.
C'est une petite
sinon,
question d'accès à l'information qui prend 15 minutes. Ça ne vaudra pas du tout la peine qu'on se déplace.
Non, c'est sûr.
Mais c'est une plus-value aussi pour les municipalités, dans le sens où ils gèrent des fonds publics. Et le temps qu'on passe à ne pas se déplacer, ben, c'est du temps que...
Que vous sauvez.
Exact.
Oui.
Donc, c'est une plus-value aussi, je pense, pour ça. Mais c'est le fun de sortir une fois de temps en temps aussi,
oui.
que ce soit pour les formations où on rencontre justement les gens à qui on parle au téléphone ou qu'on voit en visioconférence. Donc, c'est des moments aussi, je pense, privilégiés de pouvoir développer des contacts avec les clients.
Oui, c'est
ce qu'on ne retrouve pas justement dans le domaine, de la pratique au public.
OK.
Donc, le rapport aussi client-avocat...
Il est moins présent.
Et il est moins présent dans ces milieux-là. Donc, pour ça que moi, je trouvais ça intéressant de rester dans la pratique privée, mais de faire du droit public. Donc,
oui.
j'avais pas beaucoup d'options. Je me suis ramassé en droit municipal, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, de pouvoir garder, consolider des rapports clients, rentrer des clients. C'est aussi des choses qui font partie de la pratique
oui.
quand on regarde la télé, notamment. Donc, consolider aussi les liens avec les clients, c'est la fonction, disons, classique de l'avocat qu'on voit dans les films ou
Vraiment.
Dans les séries. Donc, ça m'attirait aussi.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve. Puis, ça permet aussi, des fois, d'avoir... Moi, j'ai des intérêts un peu plus pour les chartes. Donc, en droit municipal, on en fait. Mais ça me permet aussi d'avoir des dossiers un peu parallèles à la pratique strictement municipale.
Okay.
Là, par exemple, les dossiers des... des fausses cigarettes qui ont été fumées au théâtre dans la ville de Québec. Il y a 3 constats d'infraction qui ont été... Ça date de 2000, on a plaidé ça, donc avec 2 professeurs d'ailleurs de l'Université Laval, Antoine Pellerin et Louis-Philippe Lampron.
Oui, oui.
Donc, on a un dossier qui est rendu en cour d'appel en délibéré, mais donc 3 théâtres de la ville de Québec ont reçu des constats d'infraction pour avoir fumé des fausses cigarettes sur scène.
Oui, ça a quand même fait la une.
Oui, exact. Ouais, c'est vrai, exact. Oui. Donc, on est les 3 avec Julie Desrosiers aussi à l'Université Laval qui ont accepté de s'occuper de ce dossier-là avec les 3 théâtres pour contester la validité de la loi concernant la lutte au tabagisme sur la base de la liberté d'expression artistique. Donc, évidemment, a priori, il n'y a rien de municipal là-dedans, mais d'être en pratique privée, ça permet aussi de garder des dossiers comme ceux-là là, qui me tenaient à cœur au niveau de mes valeurs aussi. Donc, c'est un gros plus pour moi d'être en pratique privée, ce que j'aurais pas pu faire si j'étais, par exemple, au ministère de l'Environnement.
Non, c'est sûr ou des affaires municipales. Ce niveau-là, ça serait pas nécessaire.
Exact. Donc, moi, c'est ça qui m'a gardé aussi attaché à la pratique.
Puis, comment ça s'est fini?
Le dossier?
Oui.
On a perdu en Cour du Québec. Je n'étais pas au dossier. On a perdu en Cour du Québec. Donc, la loi a été jugée constitutionnellement valide.
Oui.
En Cour supérieure, par la suite, la Cour supérieure a déclaré que la loi était invalide. C'était une atteinte injustifiée à la liberté d'expression.
Okay.
Donc, une portion de la loi était invalidée. Le procureur général du Québec est allé en appel donc, de cette décision-là devant la Cour d'appel du Québec. On a été entendu, je crois, en mai 2025. Et donc,
tout récent quand même.
C'est tout récent. Ouais. On a plaidé ça donc, en début d'été et on n'a pas eu la décision là, de la Cour d'appel sur ça. Ça date donc, je pense, de 2021. Donc, c'est un dossier qui sèche là pas mal dans le temps, mais c'est des dossiers qui pour Antoine, Louis-Philippe, Julie et moi, c'est un dossier d'importance qui rejoint nos valeurs.
Ben oui, puis je me souviens, en fait, j'ai eu Louis-Philippe Lampron en droit et liberté.
Oui, donc c'est un vrai privilège.
Oui, puis il m'a vraiment, il en a abordé, là, il l'a abordé en classe.
Oui. Ben, c'est intéressant, puis moi, je ne l'aborde pas vraiment dans mon cours de droit administratif.
C'est pas nécessairement.
Non, mais c'est quand même un dossier, moi, qui me tenait à cœur, donc je trouve ça intéressant, encore une fois, d'avoir une forme de flexibilité de la part du bureau pour continuer d'avoir des dossiers qui nous gardent vraiment animés au niveau des valeurs qui nous ont amenés à pratiquer et étudier le droit. Donc,
fait qu'il y a une certaine liberté à ce niveau-là aussi.
Oui, évidemment, si vous voulez développer un secteur de droit familial au bureau, ça va peut-être être plus difficile.
Non, c'est sûr. C'est quand même en concordance
Il y a un certain fil conducteur. Ça reste du droit public. J'essaie de me faire de plus en plus de chartes aussi. Il y a des dossiers, d'ailleurs, ça c'est très intéressant, sur la question de la laïcité.
Oui.
On parle beaucoup de la laïcité pour l'État, mais l'État, ça comprend aussi les municipalités qui sont pris avec plusieurs enjeux, par exemple la question des prières dans les parcs publics, les prières de rue, là, comme on les appelle, c'est les municipalités qui les encadrent.
Okay.
Donc, est-ce qu'on peut faire une prière religieuse dans un parc municipal? C'est des questions pour lesquelles on est souvent consulté. Je suis en tout cas souvent consulté. Ça m'a permis aussi d'écrire un article dans un ouvrage de développement récent sur la laïcité en matière municipale. Donc, ça, c'est un autre volet de formation qui peut être intéressant.
Oui.
Donc, de continuer à rédiger sur des sujets.
C'est vraiment différent, là. Tu sais, je veux dire, tes journées, ils sont jamais pareilles.
Non.
Puis est-ce que, par exemple, le fait que tu sois chargé de cours, est-ce qu'il y a un matin, je sais pas, c'est quand que ton cours est
de... Lundi midi.
OK, est-ce que, mettons, le matin, tu vas rentrer au bureau ou comme tu prépares ton cours, puis après ça, après ton cours, tu viens au bureau, je sais pas, est-ce que ça se mélange quand même?
Ça se mélange assez bien. Je dirais que le matin, je m'occupe surtout de préparer mon cours.
C'est
mon cours
normal,
est déjà monté, mais donc le matin, je m'en occupe. Puis par la suite, je donne le cours, puis après ça, je finis de travailler. Des fois, c'est un peu fatigant. Donc, on fait pas des grosses tâches. On commencera pas un mémoire d'appel lundi à 3h30. Mais on a souvent des courriels à gérer, des petites questions à répondre, des suivis de dossiers judiciarisés. Donc, c'est souvent ça ma journée quand j'ai une charge de cours.
Oui.
Mais autrement, s'il n'y a pas de charge de cours, c'est vrai que c'est difficile à prévoir. On essaie de planifier notre journée.
Oui.
Il y a toujours évidemment une dose d'imprévu avec les clients.
Oui, ça doit arriver souvent.
Mais c'est quand même, faut s'adapter, mais ça fait partie du plaisir. Je pense que si on est trop rigide
routine,
là-dessus.
C'est ça, là.
Exact. Évidemment, on travaille tous les jours, là, sauf la fin de semaine, mais autrement, c'est difficile de prévoir véritablement à quoi va ressembler une journée, puis de travailler une journée de la fiscalité municipale, après ça de la laïcité, après ça de la discrimination, après ça des...
Les sujets sont vraiment variés. Là.
Exact.
Je pense
donc,
que ça peut être...
Moi, j'ai vu ça comme un plus.
Oui.
Parce que je ne savais pas exactement où est-ce que je m'en allais avec ma pratique.
Oui.
Donc, je pense que c'est des compétences qui se développent quand on commence à faire du droit municipal, là, avec tout ce que ça comprend. Je pense que c'est des compétences très transversales.
Okay.
Donc, ça touche à beaucoup de sujets. On continue de se former. Ça forme des esprits juridiques, je pense, sens assez aiguisé, oui, le droit municipal.
Mais c'est vraiment pas, en fait, un sujet... Ben, c'est pas, en fait, une branche de droit que je pensais qui était aussi large que ça.
Exact.
Oui.
Moi non plus. Au baccalauréat, jamais... Si quelqu'un m'avait dit « Voudrais-tu faire du droit municipal? » ça m'aurait pas vraiment intéressé.
Pas certain, oui.
Non, mais donc, y a moyen d'être converti. Ben oui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
Puis, vous devez, en fait, tu sais, je veux dire, c'est très bien que le droit, c'est en constante évolution. Là. Ouais. Est-ce que vous en apprenez sûrement régulièrement des nouveaux aspects de...
Tous les jours. Ouais, c'est une qualité, je pense, qu'il faut avoir ou développer, oui, une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de lois qui s'appliquent aux municipalités et c'est un peu impensable de penser qu'on va toutes les connaître en arrivant en première année.
Mais il y en a
année.
Beaucoup, c'est ça, ça doit être...
Il y a beaucoup de règles, les règles de droit administratif, les règles de droit statutaire, ça change fréquemment. Donc, il faut faire preuve d'une certaine forme d'humilité et on apprend tous les jours. Et moi, c'était pas un problème pour moi, au contraire, justement.
Je pense que ça peut être super intéressant.
Exact. Puis la maîtrise, je l'ai fait pour continuer à apprendre, mais je pense qu'on continue à apprendre à tous les jours. Les avocats les plus expérimentés avec qui on travaille en apprennent à tous les jours. Quand ils ont des questions de charte, par exemple, ils viennent me voir puis ils en apprennent sur ces sujets-là. Moi, quand j'ai des questions sur leur domaine un peu plus d'expertise, naturellement, j'en apprends. Donc, c'est un partage de connaissances qui est continu. Et je pense qu'il faut être prêt à faire preuve d'un peu d'humilité quand on commence. Et on recommence un petit peu à zéro.
Oui.
Donc, il faut être prêt à apprendre, être curieux, rester ouvert. Mais je pense que ce serait des bonnes qualités à avoir si on est intéressé par au moins essayer le droit administratif ou le droit municipal.
Parfait. Donc, en prenant en considération que la plupart de notre audience, c'est des étudiants, si vous étiez à la place, justement, d'un étudiant aujourd'hui, quelle expérience, que ce soit les stages, les comités ou autres, qu'est-ce que vous recommanderiez pour vous préparer à la pratique en tant que telle?
D'abord, peut-être au niveau des cours, admin 1, admin 2.
Oui.
Je pense que l'admin 2, c'est un must. Je sais qu'il faut choisir entre ça et d'autres cours, mais je pense que c'est plus difficile de s'enseigner à admin 2 que d'autres sujets. Donc, je recommanderais ces deux cours-là. Droit municipal aussi, qui n'est pas donné tout le temps, mais qui peut être intéressant pour s'initier au droit municipal. Sinon, il y a des stages en milieu gouvernemental ou à la magistrature qui est possible de faire. Là, je pense que c'est DRT 2213. Donc, quand on est rendu dans les cours à option, il y a des stages qui peuvent être intéressants. Moi, je l'avais fait au procureur général du Québec. Donc, que ce soit dans les ministères, dans les bureaux du procureur général, ça peut être intéressant pour s'initier au droit public.
Okay.
Les stages aussi, que ce soit en milieu gouvernemental ou à la magistrature, là, c'est le cours DRT 2213, je pense.
Oui.
Si c'est possible pour vous de faire des stages dans les ministères, dans les organismes publics, au procureur général du Québec, ce sont des bonnes options, je pense, pour se familiariser avec la pratique en droit public ou dans des domaines en particulier. Fait que ça, je pense que ça peut être une expérience super intéressante. Autre chose, tous les midi-conférences ou les événements organisés par l'AED ou les autres organismes sur le droit municipal, le droit de l'environnement, le droit public de manière générale, je pense que ça peut être intéressant. Il y a le CEDAC, le Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, qui s'intéresse à plusieurs questions en matière de droit administratif et constitutionnel.
Oui.
Je pense qu'il y a un groupe aussi au premier cycle qui est le GEDAC, mais donc peut-être de suivre ces organismes-là, de voir qu'est-ce qui est fait.
Puis l'Université Laval aussi, en tant que telle, ils ont beaucoup de conférences de professionnels qui se donnent à ce niveau-là.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, on parle souvent de la course au stage. La course au stage, c'est pas qu'une opportunité pour les cabinets de recruter. À mon sens, c'est aussi une opportunité pour les étudiants de poser leurs questions.
Oui.
Donc, soyez curieux, ne vous limitez pas. Posez des questions aux avocats pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, que ce soit la journée carrière, la course au stage, le wine meeting, tous des événements comme ça.
La journée carrière, elle arrive comme bientôt.
Exact.
Je pense que c'est en janvier.
Je crois.
Pense que c'est en janvier,
Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ce n'est pas un test, c'est vraiment un moment
de... Il n'y a pas de questions niaiseuses.
Non, posez vos questions. Puis aussi, si vous intéressez aux litiges, il y a les tribunaux écoles. Il y en a un, que ce soit le Laskin ou aussi la Coupe Denis Lemieux, qui est un tribunal école en matière de droit administratif. Denis Lemieux, d'ailleurs, qui était avocat conseil ici, en même temps d'être professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Mais ce sont des belles expériences pour vous familiariser avec la plaidoirie en droit public.
Est-ce que vous en aviez fait? De ça,
non.
Mais c'est vraiment correct.
Non, moi, j'ai fait mon bac un peu accéléré en 2 ans au lieu de 3 ans. Donc, j'avais fait ma première année à l'étranger. Donc, j'ai eu beaucoup de cours crédités, ce qui fait en sorte que j'ai été limité quand même dans mes choix de cours à option.
Oui.
C'était pas par un manque d'intérêt, c'était plus par un manque de temps dans mon baccalauréat. Donc, ce serait ça pas mal mes conseils.
Okay.
Soyez curieux. Suivez aussi un peu l'actualité. Il y a beaucoup de dossiers, que ce soit la politique provinciale ou municipale, qui soulèvent des enjeux de droit public, des droits municipaux, puis des fois, on n'y pense pas. Mais ce sera
c'est vrai
conseils.
Que l'actualité, c'est vraiment un bon moyen de,
vraiment,
d'en apprendre davantage.
Il y a évidemment les élections municipales, oui. ces temps-ci, qui nous gardent très occupés au niveau du droit municipal, mais les questions aussi de déontologie. Par exemple, il y a un gros dossier avec la mairesse de Saguenay en matière oui. de manœuvres électorales frauduleuses. C'est en appel, je crois, là, mais c'est des dossiers qui sont souvent très médiatisés. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est foisonnant, mais qui est à l'échelle locale. Donc, oui. c'est peut-être pas couvert de la même manière partout, mais de vous intéresser à ça, je pense que c'est une bonne manière aussi de tisser des liens avec les avocats qui pratiquent, de faire des liens, de monter votre curiosité. Donc, ce serait pas mal les activités et les éléments que je recommanderais là, pour
donc,
se familiariser avec tout ça.
Vraiment de rester curieux, puis c'est ça, de ne pas avoir peur d'aller vers les avocats pour en apprendre davantage.
Exact. Et on est là pour démystifier les oui. choses. Je suis là aujourd'hui pour ça, mais on, c'est un travail de tous les instants quand même. Puis ça nous fait plaisir d'expliquer c'est quoi la oui. nature véritable de notre travail, parce que je sais que c'est assez occulte quand on est au
ben
baccalauréat.
Oui.
Puis il y a tellement d'options aussi.
Ben, t'as été à notre place, là. Fait ouais. que c'est...
Il n'y a pas si longtemps. Ouais. Puis j'ai fait un choix qui ne me destinait pas à travailler en droit municipal, mais une fois que j'ai eu les deux pieds dedans, c'est là où vraiment j'ai compris que ça m'intéressait. Donc, si on est intéressé par la pratique en cabinet, le droit public de manière générale, et le litige, ça peut être des bonnes options. Si on aime les questions de charte, de constit,
ben oui.
d'admin, puis qu'on ne veut pas travailler dans la fonction publique, il n'y a pas 12 options. Donc, moi, c'est celle que j'ai trouvée qui était la plus intéressante, puis je la recommande chaudement aux okay. gens intéressés avec un profil qui pourrait ressembler au mien.
Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Honnêtement, je vais parler pour moi-même parce que je ne sais pas ce que notre audience va penser, mais... J'aurais même pas pensé ça moi-même du droit administratif et du droit municipal, honnêtement.
Bon, mais tant mieux, c'était ça l'objectif.
Non, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de branches que je n'étais pas au courant. Puis il y aura beaucoup d'opportunités, parce que
oui.
je ne pensais pas nécessairement. Fait que je te remercie vraiment beaucoup d'avoir
plaisir.
Été avec nous aujourd'hui. Puis je te dis à la prochaine.
Merci beaucoup.